Deutsche Welle Magazine Santé.
Maladie virale grave extrêmement contagieuse, elle reste l'une des causes importantes de décès du jeune enfant. Cette semaine dans le magazine Santé, nous parlons de la rougeole qui continue de faire des victimes dans des pays comme la RDC alors même qu'un vaccin existe. En seconde partie d'émission, il sera question d'un projet de bus médicaux pour lutter contre l'excision. Carole Assignon au micro, vous écoutez le magazine Santé. Une transmission par contact direct ou par l'air, ensuite les voies respiratoires qui sont infectées, puis une propagation à tout l'organisme. Voilà comment cela se passe généralement quand on contracte la rougeole. Environ 10 jours après, le premier signe d'infection apparaît. Il s'agit en général d'une forte fièvre, puis il y a le nez qui coule, de la toux, des yeux rouges et larmoyants et de petits points blanchâtres sur la face interne des joues. Une éruption apparaît plusieurs jours plus tard sur le visage, le haut du cou, les mains et les pieds. Avant l'âge de 5 ans ou chez l'adulte de plus de 30 ans, de sérieuses complications comme les infections auriculaires ou respiratoires comme la pneumonie sont fréquentes, ce qui peut entraîner des décès. La vaccination reste le meilleur moyen de protection contre la rougeole puisqu'il n'existe pas de traitement antiviral spécifique contre la maladie. Une maladie qui reste fréquente dans beaucoup de pays en développement, notamment dans certaines régions d'Afrique. C'est le cas actuellement de la République démocratique du Congo qui doit faire face à une flambée de rougeole. 6 zones de santé de la province du Haut-Katanga seraient touchées. Conséquence d'un faible taux de couverture vaccinale, de la promiscuité et de la malnutrition. État des lieux avec notre correspondant sur place, Patrick Kassondé.
J'ai 6 enfants. Je les faisais vacciner avant. Maintenant, j'ai arrêté parce qu'après le vaccin, ma fille aînée était tombée malade. Elle a été hospitalisée. J'ai jugé bon d'arrêter. Bon, je pense qu'ils exagèrent un peu avec des vaccins. C'est chaque année, même 2 fois par an, les vaccins, je pense que c'est ces vaccins-là qui causent des maladies.
La vaccination des enfants est un véritable casse-tête, tant pour les autorités sanitaires de la province du Haut-Katanga, dans le sud-est de la RDC, que pour celles de tout le pays. Certaines sectes religieuses et certains groupements sociaux s'y opposent. Delphine Kabalika, analyste en charge de la communication et de la recherche à la division provinciale de la santé, pense que ces réfractaires constituent un problème de santé publique.
Il existe des sectes réfractaires à la vaccination. Donc il y a des groupes spéciaux qui n'acceptent pas la vaccination, donc ils n'amènent pas les enfants à la vaccination des routines. Il y a plusieurs enfants non vaccinés. Nous avons été dans une investigation où nous avions objectivé un camp de postolo. Alors, ces amis ont refusé de participer dans la vaccination des routines et c'est de là où l'épidémie a commencé.
À ce problème s'ajoute celui du monnayage de la vaccination alors que les zones de santé reçoivent gratuitement les vaccins.
Deuxième chose, c'est la vente des services de vaccination. Les services de vaccination varient entre 1500 à 5000 francs congolais au niveau des centres de santé. Alors il faut considérer aussi les polycliniques et les cliniques. Les services de vaccination varient entre 10 $ à 20 $.
À cause de cette situation, se pose la problématique de la maîtrise des épidémies à l'instar de celle de la rougeole déclaré en fin mars et début avril 2018 dans le Grand Katanga. Pourtant, en mars 2017, une campagne de vaccination contre la rougeole a couvert toute la RDC. Le docteur Dieudonné Ngwej, professeur en médecine à l'université de Lubumbashi et coordonnateur provincial de l'Ordre des médecins, s'en inquiète.
L'année dernière, il y a eu une campagne dans notre province, une campagne de vaccination contre la rougeole. Et d'après le rapport qu'on avait reçu, c'est que la couverture vaccinale avait atteint presque le 90% des enfants. Alors, d'où 2 questions majeures que nous nous posons. Est-ce que réellement il y a eu cette couverture vaccinale à grande échelle? Deuxième chose, c'est par rapport à la qualité même du vaccin. Est-ce que le vaccin que l'on a utilisé a été un bon vaccin, un bon produit?
Les conditions difficiles dans lesquelles vivent les populations constituent le lit pour les épidémies, comme la rougeole, a renchéri le professeur Dieudonné Ngwej.
Premièrement, nous avons une forte mouvance de la population. Il y a des populations qui viennent d'ailleurs. Et donc, quand vous avez une promiscuité assez importante dans une zone où vous avez une faiblesse des revenus, et donc les enfants ne sont pas tout à fait bien nourris, bien immunisés, et donc ce sont des conditions qui offrent une survenue d'une telle épidémie.
Nonobstant toutes ces difficultés, les sensibilisations des populations pour la vaccination continuent. Ici à Kipushi, le docteur Delil Lumbala, médecin chef de zone de santé, exhorte les femmes à faire vacciner leurs enfants. Notons que chaque année, une ou plusieurs campagnes de vaccination contre la poliomyélite, la rougeole et toute autre épidémie sont organisées en vue de les éradiquer, comme ce fut le cas avec la variole par le passé. Patrick Kassondé à Lubumbashi pour la Deutsche Welle.
Depuis 2001, l'initiative contre la rougeole et la rubéole, qui est un partenariat mondial dirigé par plusieurs organisations, dont l'Organisation mondiale de la santé, s'est engagée à éviter que les enfants décèdent de la rougeole et à l'éliminer d'ici 2020. C'est le nombre de filles et de femmes qui ont été victimes d'excisions ou mutilées génitalement dans 29 pays du monde. 200 millions, un chiffre énorme au vu de toutes les campagnes de sensibilisation sur les dangers de cette pratique. En Afrique, on estime que 3 millions de filles risquent tous les ans de subir ces mutilations, dont les causes restent très ancrées dans les traditions. Pour inverser cette tendance, des femmes veulent agir dans leur pays d'origine. C'est le cas des femmes de l'association SOS Africaine en danger, qui rassemble de jeunes réfugiés d'Afrique de l'Ouest, francophones, musulmanes, ayant fui l'excision et le mariage forcé et qui ont trouvé refuge en Europe. Alors, elles ont lancé une campagne de financement participatif avec comme objectif de financer 10 bus qui circuleront dans 10 pays, à savoir le Sénégal, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, le Mali, la Mauritanie et le Togo. Le but, apporter les soins nécessaires aux victimes des mutilations génitales féminines, mais également sensibiliser. Danielle Mérian est la présidente de l'association.
Qu'elles veulent, c'est évidemment éviter que leurs petites filles restées au village soient excisées. Et donc, nous voulons acheter 10 school bus aux États-Unis parce que les school bus, ce sont des camions haut sur pattes qui peuvent donc rouler partout sur les routes en Afrique, qui n'ont aucune technologie moderne, donc ils sont extrêmement faciles à réparer. Et nous voulons les transporter à Dakar. À Dakar, ils vont nous les transformer moitié en dispensaire pour que les médecins locaux puissent expliquer dans les villages aux femmes et aux fillettes que tous leurs maux physiques sont la conséquence de l'excision. Parce que les exciseuses, elles savent depuis 6000 ans qu'on pratique l'excision, qu'elles rendent les rapports sexuels très douloureux, ce qui fait que la femme ne va pas tromper son mari, mais elles ne savent rien d'autre. Elles ne savent pas que les règles douloureuses à vie, c'est l'excision. Elles ne savent pas que mourir en couche, c'est l'excision. Elles ne savent pas que 20 minutes pour faire pipi, c'est l'excision. Donc tout ça leur sera expliqué et nos bus seront également pour moitié des cybercentres, ce qui fait que tous ces bus dans ces 10 pays qui seront connectés entre eux par satellite pourront échanger toutes leurs vidéos et ainsi on pourra voir que l'approche de l'abandon de l'excision est différente dans tous les pays. Par exemple, au Bénin, on a à peu près abandonné l'excision. Cependant, qu'en Guinée, ils sont toujours très accros. Ce sera donc très intéressant qu'au fond des villages, on puisse voir qu'ailleurs on fait différemment, qu'ailleurs on réfléchit. Pourquoi ? Parce que pourquoi on le fait ? On le fait parce que nous avons la domination des hommes sur les femmes. Mais on le fait parce qu'on l'a toujours fait. Donc pourquoi réfléchir ?
Mais au-delà de la sensibilisation, est-ce qu'on peut également envisager une assistance médicale même pour les femmes excisées ? Leur apprendre comment vivre au quotidien avec cette mutilation ?
Bien sûr, on va leur passer des vidéos de tout ce qui se fait ailleurs,
de la réparation du clitoris, apprendre à ces femmes qu'elles peuvent devenir normales, qu'elles peuvent jouir, qu'elles peuvent avoir des orgasmes qui sont supérieurs à ceux des hommes, puisque le muscle féminin, qui est aussi long que le muscle masculin, est beaucoup plus innervé.
Un mot, hein, vous parliez tout à l'heure de la chirurgie réparatrice. Un mot là-dessus, est-ce que dans le cadre de votre mission, il y aurait également des campagnes pour aider ces femmes justement à avoir recours à cette chirurgie? Parce que certaines sont anxieuses, certaines n'en parlent pas.
Le docteur Mukwege, qui répare les femmes au Nord Kivu, il va créer au Burkina Faso, qui est le seul pays, il y a une vraie campagne pour l'abandon de l'excision, il va créer un hôpital pour la réparation du clitoris. Nous avons maintenant, en Seine-Saint-Denis, à l'hôpital de La Fontaine, le docteur Gada Atem, qui est une femme exceptionnelle, qui a créé la Maison des Femmes, qui reçoit les femmes pour tous leurs besoins médicaux, psychologiques, sociaux, juridiques, qui a créé un service, non seulement pour la réparation du clitoris, mais elle a créé un service pour aider les femmes excisées à accoucher. Car l'accouchement des femmes excisées est absolument atroce. Toutes mes adhérentes, je les considère comme des survivantes, parce que lorsqu'elles me racontent leurs accouchements, c'est tellement atroce, c'est tellement long, que pendant l'accouchement, elles n'ont plus qu'une envie, mourir pour que ça s'arrête. Ici, mes adhérentes, quand elles sont réparées, leur petite amie les quitte parce qu'elles sont à nouveau, du point de vue des petites amies, des femmes sales, des putains, des excités du sexe. Donc c'est un très long combat.
Danielle Mérian, présidente de l'association SOS Africaine en danger, qui fait partie du réseau Excision, parlons-en. C'est avec ces explications que prend fin ce magazine Santé. Merci pour l'écoute et à la prochaine. African hands, them gon' love you.